en l'air au travers du maillot. En roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne là. Et pourquoi pas faire le tour de la terre. Il est quelle heure au Guatemala. J'ai jamais pris de fusée horaire. Toujours suivi les mêmes schémas. Carla retourne, Carla retourne, retourne là.
Radio Vélo ce mercredi 18 novembre à mes côtés Benjamin.
Bonsoir à tous et toutes.
Bienvenue Guillaume.
Bonsoir tout le monde.
Mélanie de la partie.
Bonsoir.
Julien.
Bonsoir à tous.
Fidèle au poste à la technique, un revenant de l'association Les Amis de la Radio. Nico est aussi avec nous.
Bonsoir messieurs, salut à tous.
Bienvenue.
Messieurs, mesdames.
De passage.
Parité ici.
Depuis que t'es parti, il y a des filles.
Oui, je sais très très bien.
Nico qui avait partagé la présentation du tour avec nous au Palais des Congrès. On était revenu dessus, bien sûr, dans une émission exceptionnelle. Le programme aujourd'hui avec trois invités. On parlera avec Guillaume de Almeida, le coureur de l'US Montauban. Exactement, c'était à ça que je pensais. Qui signe chez Radio Populaire Boavista, une
c'est
équipe portugaise.
Radio Populaire.
Au début, quand j'ai vu qu'il avait signé chez Radio Quelque Chose, je me suis dit, mince, Direct Vélo annonce qu'il vient chez Radio Vélo, le gars, et je ne suis pas au courant. Mais non, c'est Radio Populaire, bien évidemment, la radio portugaise, qui avait participé à la Route du Sud, cette équipe Boavista. Je ne sais pas comment on dit. L'interview d'Arthur Troy aussi tout à l'heure, c'était Midi Pyrénéen de l'AS Muret, qui va rejoindre l'équipe Soja Sun. Espoir, c'était un profil auquel on va s'intéresser dans quelques minutes. Et puis également Félix Pouilly du CC Nogent-sur-Oise qui rejoint Roubaix-Lille-Métropole. Vous l'avez compris, c'est une soirée transfert qu'on vous propose, avec également un petit débat sur les réglementations UCI, casque, maillot, lutte anti-dopage, classement, oreillette. C'est tout ce qui vous fait débattre et c'est en partenariat avec le forum Vélo Club du Net. Et Benjamin, tu as déjà lancé le débat, c'est ça?
Et oui, je l'ai lancé il y a une semaine à peu près. C'était suite au maillot de champion national de Valverde. Enfin, maillot de champion national, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, puisqu'il ressemble plus à un maillot d'un ancien champion avec seulement les liserés visibles, quasiment. Et j'ai demandé qu'est-ce que les gens en pensaient. Bon, ça a été un tollé pour Valverde, la Movistar, pour ce maillot ridicule. Et en plus, en cherchant un peu, un formeur qui s'appelle Mister Nobody a trouvé dans le règlement UCI que c'était interdit, en fait, ce qu'il faisait, puisque l'espace sponsor était inversé avec l'espace réservé aux couleurs nationales.
On va en parler dans quelques instants, juste le temps de lancer un petit jingle, et de vous dire également que la minute régionale avec le comité régional Midi-Pyrénées, ça sera juste après l'interview d'Arthur Troy, et la chronique matos de Guillaume sera fidèle au poste, avec également un Max Massat qui est dans les 10 dernières minutes de ce trajet, il est au péage, comme d'habitude, c'est le fil rouge. Radio Vélo, vous saurez tout du trajet de Max, mais on commence par, comme chaque lundi maintenant, mercredi, un petit débat. Impeccable. Benjamin, donc, tu as lancé donc, sur le Vélo Club du Net ce débat sur les réglementations. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de réactions. Déjà, c'est que la deuxième semaine qu'on prépare en commun avec les auditeurs le débat, mais toujours plus de réactions.
Oui, et puis cette fois-ci, les réactions, c'était c'était plus des propositions. On pouvait voir qu'est-ce que les forumers pensaient, qu'est-ce qu'ils trouvaient d'intéressant comme la réglementation ou quelques modifications à faire, et celles qui n'intéressaient pas. Par exemple, on peut parler de... Alors, il y en a un, BlackRock, qui a parlé. Lui, ce qui l'intéressait, c'était pour les équipes professionnelles, de prendre les stagiaires toute l'année, puisque pour le moment, les stagiaires, ça ne peut être que à partir du mois d'août.
Oui, de pouvoir les prendre sur une plus longue période ou à n'importe quel moment.
C'est les deux. Les prendre sur une plus longue période, mais également les prendre, par exemple, à partir de février jusqu'à mars ou avril, et ne pas attendre tout le temps août. Ça permettrait, selon lui, de découvrir plus de jeunes, puisque pour le moment, je crois que c'est limité à 3 ou 4 stagiaires par équipe pro. Mmh. Et vu que c'est à partir d'août, ben, il y en a 3 ou 4. Si c'était en début d'année, il pourrait y en avoir jusqu'à 10 ou 12. Bon, après, il peut y avoir des dérives.
10 ou 12 sur une année ?
Ouais, ça fait un peu beaucoup.
Ça fait beaucoup. Et j'imagine que les voix ont dû s'élever rapidement quand même, parce que c'est un petit peu la précarisation aussi du cyclisme amateur. Et puis peut-être des stagiaires jetables. Attention à ce qu'on fait avec ce genre de contrat. Julien, est-ce que tu vois des éléments positifs là-dessus? Ça donne la chance aussi à tous ces jeunes.
Mais ça voudrait, en fait, voilà, on prend un coureur stagiaire quand au fur et à mesure de la saison ou de l'avancement, ben, il fait de bons résultats. Les équipes professionnelles contactent ce coureur-là pour être stagiaire. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le coureur doit être stagiaire cette année, mais toi, il est stagiaire l'année prochaine. Ça fait un décalage. Est-ce que c'est... j'en vois pas forcément trop l'intérêt. Je pense qu'autant prendre le coureur dans sa forme qu'il est du moment, s'il a fait une excellente saison et qu'en cours de saison, on lui propose d'être stagiaire en telle équipe, je pense que c'est mieux dans ce sens-là.
C'est vrai. Après, ça peut permettre qu'il puisse être sur certaines courses qui pourraient lui convenir mieux.
L'avantage, voilà, c'est de pouvoir être essayé sur différents types de parcours et de courses où on peut vraiment voir le coureur. C'est vrai que là, on est en fin de saison, on ne sait pas ce que veut un coureur sur une Ardennaise. Alors que c'est fou, il est, voilà, il est super compétitif parce qu'il s'est frotté, parce qu'il s'est placé, etc. Alors que là, quand on prend un coureur stagiaire, mais enfin bon. Je veux dire que quand on prend un coureur stagiaire, en général, voilà, c'est un coureur qu'on sait qu'on va faire signer, un coureur qui a du talent, qui est performant.
Justement, je pense que c'était davantage vrai il y a quelques années. J'ai l'impression que ça change. On prend de plus en plus de stagiaires et donc il y en a forcément de plus en plus sur le carreau en parallèle.
Je pense que pour les stagiaires, maintenant, on prend... Alors, ceux qu'on veut faire signer, peut-être qu'on ne les prend plus trop en stagiaire parce qu'on sait justement ce qu'ils veulent. Mmh. Également par le fait que leurs résultats leur permettent d'être un bon investissement. Par exemple, dans les années précédentes, là j'ai pas d'exemple, mais Guillaume Martin par exemple n'a pas été stagiaire, si je crois bien, puisqu'on savait ce qu'il valait. Par contre, on prend plus ceux qui sont plus en deuxième rideau pour voir ce qu'ils valent sur les courses professionnelles. Pas ceux dont on est sûr qu'ils vont marcher puisque c'est bon déjà pour les contrats, mais plus ceux-là, on ne sait pas trop, on va voir ce que ça donne sur les courses professionnelles.
Donc il y avait ce débat sur les stagiaires, est-ce, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses marquantes cette semaine?
Oui, eh bien, en lien avec ce problème des stagiaires, tout ça, c'est Charlis qui a parlé des indemnités de formation pour les clubs amateurs. Alors c'est quelque chose qui est déjà apparu dans certains journaux.
Oui.
L'idée, ça serait comme en football, que les clubs amateurs qui forment des futurs pros reçoivent une contrepartie financière lorsqu'ils perdent leurs coureurs, puisque je crois bien que les clubs amateurs ont plus de difficultés que les clubs pros pour avoir de l'argent et pour compléter leur budget.
D'accord. Donc ça, Guillaume ?
Ouais, parce qu'après, c'est...
Mais c'est ce qui se fait dans le foot ?
Oui, dans le foot, effectivement, ce que j'allais dire, même tout ce qui est revenu de la télé, il y a une partie qui est, une toute petite partie, qui est redistribuée au niveau des clubs formateurs, et c'est vrai que ça n'existe pas dans le cyclisme. Et comme dans le foot, un coureur cycliste, ça coûte très très cher à former, il faut des bénévoles, etc. Donc s'il y avait un peu plus de sous, effectivement, qui redescendait, et donc, ça serait plus intéressant.
Et donc, comme il dit Pyrénées, par exemple, ça irait directement au club et aux nombreux clubs, parce qu'il y en a qui changent tous les ans, ou est-ce que ça irait à des choses comme l'Occitane, par exemple, à des organismes comme ça?
Bonne question.
Au départ, un coureur, il appartient à un club. L'Occitane, c'est une entente pour permettre à ces clubs qui appartiennent à ces coureurs qui appartiennent à des clubs de bénéficier d'une structure pour aller participer à des courses plus importantes.
Mais ils participent à la formation aussi?
Oui. Mais au final, le coureur appartient à un club. Oui. Donc il y a le club aussi qui aussi est à la base aussi de la formation du coureur. L'Occitane, bien sûr, fait de la formation aussi en encadrant, bien sûr. Donc il y a ces deux éléments-là qu'il faut pas oublier. Quoi. Aussi bien le club qui fait l'effort pour le coureur et l'Occitane. Parce qu'il faut savoir qu'un club aussi, ou un club aussi reverse de l'argent aussi à l'Occitane aussi.
Enfin, c'est un exemple, on cite l'Occitane.
Non, mais on cite l'Occitane, mais voilà, il y a de l'argent qui est reversé par le club, du coureur dont il appartient le club, à l'Entente pour pouvoir bénéficier. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est pas une mauvaise idée, ça.
Les autres règlements qu'on a envie de changer, Benjamin?
Alors, un qui me tient à cœur, The Jules également, C'est, alors on avait parlé des casques une précédente émission. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse, que les coureurs pro puissent les renlever, mais pour l'ascension finale, comme ça se faisait en 2003 et 2004, donc pas avant, pas sur l'étape. Mais c'est peut-être plus sympa pour reconnaître les coureurs, ça les rend peut-être plus humains que les voir tous casqués avec les lunettes, tout ça. Bon, c'est une petite mesure, bien sûr.
Ouais, bah moi je suis totalement contre ce changement, Benjamin, je ne suis pas d'accord avec toi.
Moi aussi, je suis contre.
Parce que les casques, Julien est le premier à dire que maintenant, il ne se rend même plus compte qu'il a sur la tête.
Exactement.
Donc,
autant tu vois le casque, aujourd'hui il y a de gros progrès qui ont été faits pour l'aération, la ventilation. Ça me voilà. Alors qu'à l'époque, on avait des casques, c'était un petit peu des marmites. Hein. Autant ce que j'ai vu sur les débats, je sais plus qui c'est qui disait qu'elle comprenait pas ou qu'elle ne trouvait pas ça joli que les coureurs ou les maillots. Je suis désolé, quand t'es en train de monter un col, que t'es à 180 pulsations et qu'il fait 35 ou 40 degrés, si tu peux ventiler un peu plus, c'est que mieux, d'accord. Tu vois. Bon, autant là, oui, c'est peut-être pas joli.
Voilà, et... mais bon, le danger peut venir dans un col de s'accrocher à une musette et de tomber. Hein,
ouais, c'est déjà arrivé.
Se faire renverser par une moto, hein, il peut y avoir des choses comme ça. Donc le risque est partout. Et les casques, Guillaume, tu les essayes à longueur d'année, à longueur de journée, de nuit même parfois. C'est quand même bien léger cette affaire.
Ouais, et puis en plus, ça ferait des risques en plus. Bah, faudrait que tous les coureurs remontent à la voiture dans la dernière ascension pour aller quitter leur casque et tout. Je pense qu'au niveau logistique, c'est assez compliqué. Puis oui, pour moi, l'intérêt. Maintenant, on a l'habitude de voir les coureurs, de les reconnaître même avec le casque, même si c'est parfois difficile. Je suis pas sûr qu'en enlevant le casque. Et puis après, est-ce que le partenaire casque serait d'accord?
Je doute. Certains coureurs montent dans la voiture aussi pendant le Tour de France pour monter plus vite, mais bon, c'est une petite boutade, bien évidemment. Max, on t'accueille, bienvenue.
Oui, salut.
Ça y est, record battu. Hein. 8 minutes 55 de retard, c'est pas trop.
C'est un bon récit, normalement c'est 10 minutes.
Tu pourras te refaire sur la prochaine étape, je pense.
De toute façon, l'objectif, c'est avant la fin de l'année, 19h pétante.
T'as vu, on a attaqué nous là.
Voilà. Et par contre, sans ça, je vois que personne n'est en retard.
Bah oui, écoute, faut pas se laisser démonter, hein, avec l'actualité, le Beaujolais nouveau, c'est demain, ça mettrait un petit peu de baume au cœur à tout le monde. Benjamin, t'as vu, on n'est pas toujours d'accord avec toi.
Eh oui, mais tant mieux, c'est ça un débat. Également, Athanas qui a parlé du salary cap. Alors, qu'est-ce que le salary cap? C'est par exemple, on dit, toutes les équipes World Tour, elles ont 2 millions de budget. Mmh. Et il faut pas les dépasser. Donc que ce soit Sky,
c'est
ou,
le communisme ça.
Direct Energy. Non, mais ça met. C'est pour éviter en fait les super équipes avec sur 9 coureurs par exemple pour le Tour de France, 4 ou 5 qui pourraient être leaders autre part. Si tout le monde a le même budget, tu peux pas payer des 1000 et des 100.
Mais c'est comme en Formule 1, si tu veux mettre la même voiture à tout le monde, tu fais une autre compétition, tu fais des Dinkar ou je sais pas, là où ils ont tous la même bagnole.
Ouais, puis s'il y avait un salary cap, est-ce que c'est pas compliqué pour trouver des sponsors après pour on voit Direct Energy. S'il y avait eu un salary cap, je sais pas, 2 millions d'euros comme tu dis.
Oui, alors j'ai un
voilà, est-ce que l'équipe Direct Energy atteindrait ce salary cap? S'ils ne l'atteignent pas, est-ce qu'on les accepte? Ça me paraît compliqué à mettre en œuvre. Et puis, ça risque de freiner certains sponsors. Ben, Sky, pour s'offrir des... Après, est-ce qu'on ne diminuerait pas justement le salaire des coureurs
et... Si, voilà, ça serait pour réduire le salaire. C'est vrai qu'il y aurait une réduction du salaire des coureurs. Après, dans l'autre sens, ça peut permettre à d'autres équipes, peut-être avec un moindre budget, d'avoir des coureurs... plus intéressant, puisqu'il ne pourrait pas avoir droit à un salaire deux fois supérieur pour être seulement équipier, par exemple. Mmh. Bon, après, chaque fois, hein, c'est vrai, comme tu dis, il y a le revers de la médaille.
Après, oui, c'est des débats. Donc,
ce sont des idées intéressantes. C'est vrai qu'on a, là, aujourd'hui, on ne creuse pas un débat unique, mais on cite un petit peu tout plein de pistes de débat autour des réglementations ici, hein, que vous avez un petit peu donné votre avis sur le forum Vélo Club du Net, et il y en a encore d'autres.
Oui, par exemple...
Max, tu voulais rajouter?
Par rapport à ce que vous dites, si on se met sur tout le monde au même niveau, il y aura plus de recherche au niveau des partenariats, des sponsors, tout ça. Et quand je vois aujourd'hui, par exemple, à l'instant, je viens de voir un tweet sur Breton Séché de Emmanuel... vert, ouais, je vois du, enfin, on peut peut-être pas les citer, les nouveaux sponsors, mais voilà, tu vois qu'il y a quand même 2, 3, voire 4 qui vont travailler ensemble, des entreprises qui sont complètement différentes, qui sont pas dans le même milieu, et grâce à une équipe de vélo, ils vont pouvoir tous bosser ensemble, alors qu'ils se connaissaient pas à la base. Et c'est ça qui est quand même assez beau et assez fort, c'est voilà, la recherche de partenariats, de sponsors qui sont complètement différents, et que tu peux faire bosser ensemble par le biais du vélo. Ça, faut pas l'oublier.
Sponsoring, il connaît bien le sujet, Benjamin.
Et par contre, si on enlève le salary cap, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre pour les équipes, par exemple par rapport à leur nationalité, un certain nombre de coureurs par exemple, pour une équipe américaine comme BMC, il leur faudrait, on va dire, deux tiers de coureurs américains pour pas, enfin, pour avoir une identité finalement dans l'équipe. Parce que c'est vrai que je prends BMC vraiment plus que Sky, je trouve qu'elle n'a pas forcément une identité américaine, tout simplement.
Non, non, il y a très peu d'identité dans les équipes. Hein. Ça, c'est ouais, assez évident.
Dans ce cas-là, on revient aux
équipes nationales. C'était un serpent de mer, c'est quelque chose qui reste.
Guillaume pourra en parler tout à l'heure avec son équipe au Portugal. Voilà, il faut un minimum un quota. Il faut le laisser en place. C'est la base.
Un quota de jeunes coureurs.
Non, des coureurs qui sont du pays où il y a l'équipe. Mm-hmm. Si tu es au Portugal et que tu as 10 coureurs, il faudrait quand même un minimum. Il faudrait 5 coureurs portugais, on va
c'est
dire.
C'est sûr.
Voilà. En France, ça serait pareil. Si tu as 20 coureurs, il en faut moins de 10 français.
Oui, on en a tous.
Pour moi, ça serait comme ça, je pense qu'il faudrait fonctionner. Tu restes quand même la majorité.
Les équipes françaises restent la majorité française.
Oui, ça en France, on n'a pas tout de suite ce côté-là pour l'instant.
Après, c'est sûr que l'équipe Tinkoff n'a pas beaucoup de Russes. Hein, bon.
Mais bon, c'est un sujet quand même assez délicat aussi, compliqué.
Ouais. Benjamin, oui.
Oui, après, non, c'était surtout sur la suppression des capteurs de puissance, des oreillettes, des ordinateurs de bord, puisque maintenant on en est là.
Et oui, bon, moi j'ai pas tout ça, mais bon.
Mais voilà, bon, c'est quelque chose qui rassemble un peu tout le monde, hein, mais c'est également parce qu'on se
le dit cyclisme ça. À papy, quoi.
Ouais, le cyclisme à papy, peut-être le cyclisme qui laisse plus la place à l'instinct.
Parce qu'il y a
quand même un sens de course qui s'acquiert lorsque tu ne cours pas avec les oreillettes et qui serait peut-être plus mis à l'honneur, quoi. Si toutes les informations n'arrivaient pas claque. Le temps que l'information passe, tout ça. D'ailleurs, on a vu dans les années précédentes, lorsqu'il y a une étape sous la pluie, avec un peu de brouillard, tout ça, que les informations ne peuvent pas arriver de suite, ça a pu donner de grosses étapes légendaires, comme il y avait celle, alors je ne me rappelle plus où c'était, mais au Giro, je crois que c'était 2010, où une échappée de 48-50 coureurs avait pris presque 25 minutes d'avance.
Et oui, il y avait Vinokourov et Evans. Et oui, il pleuvait ce jour-là, messieurs. Souvenez-vous. Et Cadel devait gagner ce Giro. Il ne l'avait pas gagné. Comme d'habitude, il n'avait pas gagné. Mais un jour, il a gagné le Tour de France.
Et voilà. Bon, après, il y a eu d'autres propositions un peu plus, un peu plus originales, comme le lestage de vélo pour diminuer. Alors, apparemment, Thibaut Pinot aurait donné une interview comme quoi, avec les vélos aussi légers, ça permettait d'avoir une certaine aspiration lorsqu'on monte. Alors, j'ai pas vérifié, hein, je dis ce que le forumer a dit, et que comme quoi le lestage de vélos, qui soit un peu plus lourd, permettrait plus d'offensive. Bon, là, on part sur des choses. Est-ce que toi ou Guillaume, ça te dit quelque chose, t'es l'expert matériel, mais...
Non, parce que dans une montée, même si eux montent vite, tout ce qui est aspiration et tout, je pense que ça joue beaucoup. Tout le monde demande finalement la suppression de la limite des 6 kg 8. Finalement, il y en a certains qui veulent revenir en arrière.
Oui.
Après, je dis pourquoi pas. C'est vrai que après, ça ne changera pas grand-chose.
Allez, nous allons continuer, messieurs, ce passage en revue un petit peu des règlements UCI qui vous font râler avec notre partenaire Vélo Club du Net. Benjamin, merci pour cette première partie. On va reparler tout à l'heure. Mais avant cela, petit crochet par le téléphone. Et oui, avec notre premier invité, c'est Guillaume d'Almeida, qui était dans l'équipe de l'US Motobank jusqu'à présent et dont on a appris qu'il allait passer professionnel dans l'équipe Radio Populaire Boavista, une information révélée par nos amis de Direct Vélo, notamment. Guillaume, est-ce que tu nous entends ?
Oui, bonsoir à tous.
Bienvenue en direct dans Radio Vélo. Félicitations tout d'abord pour cette bonne nouvelle hein, qui est arrivée il y a quelques jours. Depuis quand tu es au courant que tu es allé signer ce contrat ?
Alors, ça s'est fait le 29 octobre, exactement.
D'accord, donc depuis la fin du mois d'octobre, tu vois différemment, j'imagine, l'année prochaine.
Ah oui, là, ça change tout, ça va plus être la même course.
Alors, cette équipe Boavista Radio Populaire, c'est vrai que peut-être tu peux nous la présenter. C'est vrai que nous, dans le Sud, on a eu le plaisir de la découvrir, notamment sur la dernière route du Sud, mais peut-être pour nos auditeurs qui sont un petit peu plus haut dans la France, est-ce que tu peux leur dresser un petit peu le profil de cette équipe ?
En fait, voilà, c'est une équipe de Porto, qui, donc une des 6 équipes continentales au Portugal, qui font un calendrier portugais, espagnol, et c'est la seule équipe qui fait la, portugaise qui fait la route du Sud. Et après, le gros leader, c'est Rui Souza, qui joue tous les ans, joue la gagne autour du Portugal, quoi.
Julien, une question peut-être pour Guillaume.
Ouais, salut Guillaume. Ben, je suis très très content de, d'apprendre cette bonne nouvelle-là. Comment c'est fait cette, ce rapprochement entre toi et cette équipe? Comment ça s'est qui c'est qui a mis au courant qui, enfin, comment ça s'est fait, quoi?
En fait, j'ai envoyé le CV vers le 15 août parce que je suis allé courir là-bas deux Coupes du Portugal qui étaient juste après le Tour du Portugal. Et j'ai envoyé le CV, je suis allé courir. J'ai fait le premier jour, j'ai fait 7. Et je suis passé pas loin de faire 4, je fais 7. Et le deuxième jour, je fais 20. On arrive au sprint à 25. Et là, j'ai vu le DS adjoint qui m'a parlé. On a parlé un peu. Il m'a posé vachement de questions, tout ça. Puis il m'a dit, le vrai DS va te tenir informé, il va t'appeler, tout ça. Puis après, j'ai pas eu de nouvelles pendant 2 mois. Et en plus, entre-temps, il y a une loi là-bas qui est passée. Ils ont plus le droit qu'à 40% de plus de 28 ans dans l'effectif. Donc je pensais que c'était fini pour moi. Et puis le 24 octobre par là, le DS m'a recontacté par mail. Et après, de fil en aiguille, il m'a appelé et après c'était bon, quoi.
Peut-être rappelle-nous ton âge, Guillaume.
J'ai 27, mais l'an prochain j'aurai 28, donc je passe dans la catégorie plus 28 ans.
Voilà, c'est pour ça que ça t'intriguait par rapport à cette réglementation. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de cette réglementation? C'est pour pousser les équipes à lancer les jeunes?
Oui, mais bon, c'est pas bon parce que les meilleurs Portugais, qui se courent au Portugal, ils ont tous plus de 28 ans. Alors, ça a fait un peu polémique là-bas et. Oui, c'est bien pour les jeunes, mais bon, après, les 15 premiers tours du Portugal, les Portugais, c'est que des plus de 28 ans quasiment. Alors,
on va voir
ce que ça va donner, quoi.
Est-ce que tu connais déjà comment ça va se dérouler? Tes prochains, est-ce qu'il va y avoir des stages, tes courses pour l'année prochaine? Est-ce que tu sais déjà un petit peu depuis le 29 octobre? Tu en sais un petit peu plus déjà?
Oui, j'ai un stage de 3 jours à début décembre là-bas. Je vais récupérer le vélo, tout ça, puis on va parler de la saison. Le calendrier, ça sera à peu près le même que cette année. Après, je ne sais pas beaucoup plus. J'en serai plus au stage. On va être briefé et on saura sur quel pied danser, quoi.
D'accord. Et du coup, est-ce que tu prévois d'aménager là-bas ou comment tu vas, au niveau logistique, tu vas procéder?
En fait, j'ai une maison là-bas. Mes parents ont une maison. Et donc, je vais aller là-bas. Et puis après, je vais revenir des fois un petit peu ici. Mais sinon, je vais habiter là-bas, ouais.
D'accord.
Benjamin, une question pour Guillaume, peut-être par rapport à, au cyclisme portugais.
Oui, c'est également, tout d'abord, félicitations pour ce contrat, puisque ça faisait plus de 10 ans, je crois, qu'il n'y avait pas eu un Français dans une équipe portugaise. Je ne sais pas si tu le savais.
Ah non, je ne savais pas.
Et c'est bien parce que ça permet de nouveaux liens, quoi. On parle souvent que les cyclistes français ne s'exportent pas et je trouve que c'est une belle aventure, quoi, qui t'attend.
Ouais, c'est sûr, ouais. Ça va être un niveau au-dessus, mais ça court pas du tout pareil que chez les amateurs, et je pense vraiment que ça m'ira mieux, parce que chez les amateurs, faut faire la guerre du premier kilomètre jusqu'au dernier, et moi je suis un peu diesel, donc, puis les profils de course aussi sont un peu plus durs qu'ici, donc, j'ai bon espoir quand même, j'ai bon espoir pour m'en sortir.
Justement, le Portugal, tu as été le chercher, j'ai envie de dire. J'ai cru lire chez nos amis de Direct Vélo que c'est toi qui avais fait la démarche, donc d'envoyer des CV. Le Portugal, c'est une affaire de cœur aussi, Guillaume?
Ah oui, moi c'est mon pays, et si j'avais le choix même, je préférerais quand même partir là-bas, commencer là-bas, et puis là-bas, c'est tout le monde prépare le Tour du Portugal, c'est la folie là-bas, quoi.
Alors Max,
c'est
un sport qui monte au Portugal avec notamment Rui Costa Faria qui a été champion du monde il y a 2 ans. Moi je me souviens d'un certain Hugo Sabido à Barloworld, je ne sais pas si tu le connais.
Oui, il court toujours. Ouais.
Ah, il court toujours. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un sport qui se développe au Portugal. Il n'y a pas Cristiano Ronaldo dans la vie. Max, tu connais bien Guillaume d'Almeida, à la fois sur le vélo et je crois en dehors. Est-ce que tu pourrais, pour nos auditeurs de toute la France, le présenter en quelques mots sur le vélo en priorité?
Ouais, parce que je le connais un peu plus en dehors que sur le vélo, je pense. Donc, Le présenter, comme j'ai dit.
Quel type de coureur, où est-ce qu'on va l'atteindre?
En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a à peu près, on a démarré à peu près en même temps le vélo, et surtout à l'âge de 20 ans. Et nous, on a démarré en FFGT, hein, c'est même pas en FFC, c'est au plus bas, on va dire, sans critiquer le FFGT, qui est quand même une bonne fédération aussi. Et ce qui est intéressant, c'est voir sa progression. Sa progression qui a été constante d'année en année, et surtout quand il arrive en première catégorie en FFC. Comme j'ai dit, moi, en 4 ans, si on va voir même sur Radio, nos amis Radio Vélo, ses résultats, on voit bien, au début, pas de résultats en élite, puis après, il a commencé à faire des résultats, des places, des victoires, et même en Coupe de France. Donc, on voit une progression qui est constante. Il n'y a pas une vague qui descend sur une année sur deux. Non, c'est vraiment monté en puissance. Et là, cette année, sur les tours comme Dordogne, Auvergne, etc., tout le temps présent dans les 10 premiers ou dans le top 3 même, avec des maillots distinctifs. Donc, oui, en France, c'est peut-être pas assez pour passer pro, parce qu'il n'y a pas beaucoup de victoires derrière. Mais son profil aussi, peut-être, est plus adapté là-bas. Donc pour moi ça monte, c'est régulier, donc il y a pas de raison que c'est normal que qu'il signe là-bas.
Tu le qualifierais dans quel type de coureur?
On le surnomme le grimpeur quand il décroche à l'eau, le grimpeur. Donc voilà, le grimpeur, nous on le connaît bien là-bas, en plus il vient des Pyrénées. Et souvent on en parlait tout à l'heure au téléphone, même dans la semaine. Enfin voilà, je lui dis mais t'as déjà coché la route du sud, parce que moi j'ai posé 4 jours de congé, donc là-bas, il dit pas, mais bon, déjà ces courses-là aussi. Et d'ailleurs, moi, j'avais une question pour lui et pour les auditeurs. Ta nationalité, est-ce que tu vas rester français, est-ce que ce sera portugais, parce que c'est important de savoir s'il est français, il pourra faire le championnat de France pro avec tout le monde.
Oui, je vais rester français. Et d'ailleurs, je crois que le championnat de France, il va être assez dur.
Voilà.
Ouais. À Vesoul, c'est ça, du côté de Vesoul.
J'essaierai de m'échapper au moins quelque chose.
Petit Star Wars.
Voilà.
Bon, Guillaume, on va te remercier en tout cas, et on suivra ton parcours, hein, si tu veux bien, avec l'équipe de Radio Vélo. Radio Vélo, Radio Populaire, en plus, il n'y a qu'un mot. Hein. Peut-être le mot de la fin, Guillaume, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour les prochains mois?
Pas de blessure, que ça se passe bien, pas de blessure surtout, quoi. Pas de contre-temps, et de foncer et de pas réfléchir et d'aller au combat et d'aider l'équipe pour aller chercher la gagne autour du Portugal, et voilà quoi.
Bon, mais c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci Guillaume d'Almeida d'être passé dans Radio Vélo.
Merci beaucoup, merci à vous.
Merci, à vous. Et à bientôt. Petite coupure, petite respiration, on revient dans deux petites minutes. Vous êtes en direct dans...
C'est ta radio.
Pop.
Rock.
Sport. Exclusivité le jeudi à 19h, en rediff le samedi 19h, ainsi qu'en podcast.
L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne. Retourne-la.
Radio Vélo de retour.
Je dis pas Radio Populaire.
Radio Populaire de Boa Vista, en direct.
Carayo for Carayo.
On ira commenter peut-être la route du Sud pour Radio Populaire. Pourquoi ne pas faire un partenariat, Max?
Voilà.
Tu me fileras les coordonnées de Radio Populaire.
Ils ont Twitter.
On va les tweeter.
Un petit tweet.
Par contre, moi, je parle pas le portugais, par contre.
Mais c'est pas grave, tu nous envoies le son et on va se débrouiller. On va parler dans quelques instants d'Arthur Troy, à midi pyrénéen, peut-être le temps que je lui passe un petit coup de fil, commencer à donner la température du week-end midi pyrénéen, Mélanie?
Oui. Alors, je vais commencer par vous parler de la deuxième manche de la Coupe de France à Kelnuc, de cyclocross, qui a eu lieu dimanche dernier. Je vais vous donner quelques résultats. Donc, chez les cadets, Émile Faramont a fait une très belle 10e place.
Ouais, sachant qu'il était pour quasiment la gagne, quasiment toute la course. Ils étaient 5 devant. Et je pense qu'il y a manqué un tour. Sur le dernier tour, ça a été un petit peu là qu'il est un petit peu coincé. C'est également rentré de l'arrière. Et les 5 qui étaient se sont retrouvés à 10. Et il est un peu coincé, il fait une 10e place, mais il avait largement le tome 5 vraiment jouable. Il manquait quasiment rien. Techniquement, il est fort. Il est revenu dans une descente. Il était mal placé. Il est revenu. En travaillant bien, je pense qu'il a vraiment de quoi faire pour faire vraiment un top 5. Au France, il devrait pas être très, très loin.
Et Nathan Van de Piet qui fait 17e, mais qui était blessé au coude, si je me trompe
ouais,
pas.
Ouais, était blessé au coude. Après, il revient de vacances. Donc voilà. Derrière Nathan, il y a Théo Crescence qui a fait une excellente course aussi, 18e. Et après, les Midi-Pyrénées que tu as nous cité qui sont derrière, une grosse délégation de coureurs Midi-Pyrénées qui était présent.
Beaucoup de cadets, ouais, avec le petit Revello qui fait 52e. Je vais donner que les noms de famille, ça ira plus vite.
Ouais, Théo Delmas qui fait d'aller 55.
54e. Ouais. Clément Almansa, 73e. Thibault Leport, 84e.
Qui n'a pas eu de chance, qui a eu au moins deux chutes, voire trois chutes, avec des incidents matériels, donc il n'a pas été.
Léo Montmirail, 103e. Alors Guillaume Gauthier, 111e. Et enfin Louis Larocque, 112e.
Sachant qu'il y avait 23 lignes de départ à 8 coureurs par ligne de départ. Donc je vous laisse imaginer, il y avait quasiment 170 coureurs au départ de la course cadet. C'était impressionnant.
Est-ce que c'est trop, Julien?
Disons que pour moi c'est trop, parce que, enfin, c'est trop. Le problème, c'est qu'un coureur qui part en 20e ligne, il va remonter. Mais s'il a les capacités pour être devant, il remontera jamais, quoi. Et on voit des coureurs qui remontaient, des coureurs qui ont du talent, surtout sur des circuits techniques qui vont remonter, mais tu peux pas, c'est pas possible.
C'est en progression, cette participation, par rapport aux autres années, ou c'est plus ou moins similaire?
Bon, on va dire que ça stagne, mais il y a eu quelques, enfin, à l'époque, il n'y avait pas les cadets, et c'est vrai que maintenant, les cadets, ils sont toujours pareils, 170, 180. Le problème, voilà, c'est que, quand tu fais ta première manche, si tu es classé très loin, tu vas avoir du mal à rentrer dans les premiers, on va dire dans les 50 premiers, et savoir que la ligne de départ de la deuxième épreuve tient compte du classement de la première épreuve. Donc voilà, si tu as un incident mécanique ou X raison, tu te retrouves encore parti dernier, enfin derrière. Voilà, c'est très compliqué, sachant que les trois épreuves sont qualificatives pour le championnat de France. Il faut pas les manquer, donc voilà. Ça fait beaucoup sur une épreuve qui dure 2 heures chez les cadets. Il y a quoi? Il y a 4 tours, 5 tours. Sur 1 heure, tu as le temps de revenir. On voit des coureurs chez les élites, hein, les Coupes du Monde, qui partent loin, ils se refont place. Voilà, ils arrivent à remonter. Chez les cadets, c'est trop compliqué. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage que des coureurs qui soient bons soient derrière, parce que, alors il y a certains comités qui arrivent, je dirais, qui sont plus intelligents que nous, et qui arrivent à engager des coureurs sous leur sélection régionale, sans que pour autant ils les encadrent, et ce qui permet qu'ils soient favorisés au niveau de la grille de départ, que nous on ne fait pas chez nous. Voilà. Donc j'espère que le comité va en prendre note, que nos coureurs ne soient pas à la 23e ligne, parce qu'on a des coureurs qui ont du talent, et qui ont de quoi faire des belles places, quoi, hein, et c'est encourageant pour les gamins, quoi.
Alors ensuite, chez les cadettes, Manon Bialade fait 33e et Mélanie Sen, 43e. Chez les dames, Audrey Mathieu, 42e. Et donc enfin, chez les juniors, Lodelino Pla prend la 19e place, mais a chuté deux fois.
Ouais, a chuté deux fois, voilà.
Et je vais y arriver. Et donc, Tocaven finit 49e et Guiraud, 59e. Voilà.
Très bonne performance de Tintin Cognier. Qui prend une 15e place, si je me rappelle bien. Ça, hein. Je pense qu'il est au summum de son art. Moi, je le félicite parce que 15e place sur un challenge qui était quand même pas mal relevé. Bravo, Tintin.
Bon, bravo, Tintin aussi. On reparle de la minute régionale dans quelques instants. Juste le temps d'accueillir notre second invité. J'espère qu'il a écouté ça attentivement. Arthur Troy, est-ce que tu nous entends?
Oui, je suis là.
Bienvenue en direct dans Radio Vélo et merci. Salut, de prendre quelques minutes pour être avec nous. Je ne sais pas si tu écoutais la petite page cyclocross. Est-ce que tu suis le cyclocross? Je crois que oui, hein, tu suis de très près même.
Et oui, je suis pas mal. L'an dernier, je les avais presque tous faits dans la région. Et là, je vais recommencer d'ici la fin du mois ou le début du mois de décembre pour pouvoir bien me préparer pour ma saison.
Justement, donc la saison prochaine avec un petit peu de changement, hein. Il y a eu cette annonce, donc fini la S Muret Cyclisme direction le Sojasun Espoir. Depuis quand tu sais que ce transfert va avoir lieu, Arthur?
C'est une nouvelle que j'ai appris un peu tardivement, juste un mois avant les mutations. Donc moi, je les avais contactés dans l'été par Jean-Marc Marino. Donc il m'a épaulé un peu dans mon projet, qui m'a permis d'intégrer cette structure. Et puis j'ai appris la nouvelle courant du mois de septembre. Du coup j'ai été ravi, j'ai annoncé un peu autour de moi, et puis après c'est devenu officiel avec l'apparition d'un direct vélo.
D'accord, donc c'est officiel depuis peu de temps.
Oui, voilà, c'était juste, je l'ai vraiment su, juste quelques jours avant la, la mutation, où j'ai pu monter deux jours sur Noyelles-Châtillon, juste à côté de Rennes, mais dans leur centre, pour pouvoir justement rencontrer le directeur sportif et le président du club et du coup de l'équipe, et qui m'ont confirmé que l'an prochain, j'intégrerai les rangs de leur équipe de DN.
Julien.
Eh bien, félicitations Arthur, ça fait plaisir de voir des coureurs grimper, des coureurs qu'on voit dans les sous-bois l'hiver. Est-ce que déjà tu sais un petit peu comment ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir des stages, ton planning de course l'année prochaine, qu'est-ce qu'ils attendent un petit peu de toi, quelle sauce tu vas te manger, mais est-ce qu'ils ont vraiment des attentes très très particulières par rapport à tes compétences?
Après, donc, pour le moment, on n'en a pas trop parlé au vu de ce que je ferai vraiment l'an prochain. On va, pour tous les coureurs, on ne sait pas encore le calendrier exact, on le saura donc ce week-end, parce qu'on a le premier stage de cohésion. Donc on fait en Bretagne un stage de trois jours sans vélo, où on est tous regroupés pour passer de bons moments. Et là, je suis actuellement chez eux à Noyelles-Châtillon, parce qu'il y avait la soirée des champions donc samedi dernier, et j'ai pu rencontrer déjà une partie de l'équipe et faire une bonne soirée de cohésion, on va dire, et avec une super ambiance.
Tu as mis tout à l'heure sur ton compte Twitter, parce que bien sûr tous les cyclistes sont sur Twitter, tu as mis que tu allais pouvoir expliquer un petit peu ton départ pour Solastien. Le mot expliquer m'interpelle, c'est quoi? C'est expliquer un petit peu les objectifs, la démarche, c'est pour franchir une étape en fait que tu vas à Solastien?
Voilà, c'est exactement ça, étant un peu dans le sud de la France, donc dans la région toulousaine, le vélo, c'est sûr, il se développe de plus en plus. Et comme vous le savez très bien, c'est moins développé que dans une région comme la Bretagne. Donc le fait de partir dans une telle équipe me motive beaucoup. Donc j'ai la chance de pouvoir y être maintenant actuellement. Donc je vais tout donner pour montrer au mieux donc les couleurs de ma région d'origine, qui est Midi-Pyrénées, et aussi de mon club qui me tient beaucoup à cœur avec les Muret cyclistes. Et donc mon choix de partir de Midi-Pyrénées et quitter un peu la structure régionale avec notamment des structures comme Lagnac ou l'Occitane qui m'avaient contacté et que je remercie pour les offres ou les démarches qu'ils ont pu mener à mon sujet. Et je souhaite aussi énormément remercier mon club qui monte actuellement une DN donc qui sera en DN3 l'an prochain, avec une entente de club dans Payen. Et il m'avait beaucoup convié à ce projet. Et moi, je suis vraiment fan de ce projet. Et je les aide même actuellement dans leur démarche un peu pour qu'ils aient l'an prochain une équipe qui soit la plus jolie possible et qui tienne le plus possible la route.
Arthur, tu es déjà arrivé en Bretagne, là?
Oui, c'est ça. Là, je suis en Bretagne aujourd'hui.
D'accord. Non, parce que ça s'entend un peu, le son est moins bon.
Je sais pas si vous l'entendez vraiment, après j'avais une parole, c'était peut-être ça.
Oui, non, c'était histoire de faire une petite blague. Max, ouais,
je comprends.
Max, plus sérieusement, l'AS Muret Cyclisme donc, que tu suis, Arthur Truc que tu connais, quelle est ta réaction? Peut-être une question pour
Arthur. Arthur, c'était un des premiers concernés moi, par le projet, sachant qu'il a sa mère qui habite à côté de là où je suis, à 300 mètres, donc ça rapproche aussi quand même d'un petit village. Et par rapport aussi à son investissement au club de Muret, il s'est de suite investi dans ce projet-là, même si ça fait à côté, il avait cette touche à Solastien. Et d'entrée, on a été clair sur le discours. Moi, je lui ai dit, de toute façon, si t'as la place d'aller là-bas, fonce. Vas-y, parce que de toute façon, là, c'est Solastien, il n'y a pas à hésiter. Par contre, si c'était pour rester en Midi-Pyrénées, bon, moi, je faisais le forcing pour qu'il vienne avec nous. Puis lui, de toute façon, il m'avait fait comprendre aussi que voilà, s'il n'était pas pris là-bas, il faisait la route avec nous. Et ça a été, c'est sûr, le club de Muret, le président, monsieur Jolibert, était automatiquement un peu déçu de le voir partir. Mais on a discuté, je lui ai fait comprendre que c'est aussi un mal pour un bien. Si jamais, ça se passe bien sans la voiture à Solastien, plus tard, il pourra dire, voilà, il est passé par le club de Muret. Et en plus, un très bon gars, on va dire Arthur, parce que il annonce son départ là-bas, il continue à s'investir au club de Muret, même moi par rapport à la structure, alors que je lui demande pas quand même grand chose, mais il le fait volontiers. Et voilà, donc ça, il y a pas beaucoup de coureurs aussi qui pensent à, en gros, à terminer son contrat jusqu'à la fin de l'année, on peut dire ça, si, mais c'est pas des contrats pro. Et il lâchera pas non plus parce qu'il part là-bas, qu'il va oublier d'où il vient. Non. Donc il y aura pas de souci de ce côté-là. Et puis je pense qu'il peut peut-être aussi, si on a le temps, mais je suis pas sûr, de nous raconter un peu ce qu'il a vu là-bas sous la semaine, parce que je pense que quand t'es tout jeune comme ça et que t'as rien connu d'autre et que tu débarques là-bas, t'as un peu les yeux qui pétillent.
Alors c'est déjà une belle organisation, Arthur, là-bas?
Ah oui, franchement, c'est exactement ce qu'il a dit Max là, pour le moment, pour ce début de semaine. Je suis vraiment ravi de tout ce qui se fait dans une telle équipe. C'est des petits détails, mais de savoir que derrière, on a vraiment le soutien de tout un staff et de toute une équipe qui est prête à nous aider pour aller chercher le plus haut niveau. C'est, moi, je trouve, pour tout cycliste, c'est motivant et je le souhaite à tout le monde. Moi, j'ai la chance de pouvoir le vivre cette année. Donc c'est pour ça que je vais vraiment tout donner. C'est sûr, en prenant énormément de plaisir, je l'espère. Et je n'en doute pas. Mais ça me tarde que la saison commence, de partir le week-end en course avec les coureurs et avec le staff, voir vraiment comment ça fonctionne. Quoi.
Allez, ça va vite arriver. Mélanie, une question peut-être pour Arthur.
Juste pour savoir, en fait, comment tu allais t'organiser au niveau de tes études, parce que tu as 19 ans et t'es en plein dans tes études post-bac. Donc voilà, je voulais juste savoir comment tu allais t'organiser de ce côté-là.
Et bien donc moi, pour les études, je trouve que c'est vraiment primordial. Je souhaite pour rien au monde arrêter. Là, je suis actuellement donc en STAPS à Toulouse en première année. Et je vais continuer mon second semestre. Donc l'année en STAPS est divisée en deux parties. Le premier semestre qui est jusqu'à janvier, que je vais réaliser à Toulouse et que j'espère valider à Toulouse sans souci. Et puis, début janvier, juste après les partiels, je partirai faire mon second semestre à Rennes. J'ai pris contact avec l'université déjà là-bas. Il m'épaule dans mon projet, donc c'est aussi super. Donc je vais pouvoir continuer à faire mes petites études à côté et faire mon bout de chemin pour bien sûr ne penser au vélo, mais il y a pas que ça. Il faut garder, je pense, les pieds sur terre et les jeunes qui arrêtent les études trop tôt dans tous les domaines sportifs pour se plonger à fond dans leur sport. C'est sûr, c'est bien, mais c'est un risque à prendre à long terme et j'ai pas envie de prendre des risques un peu exagérés.
Max, une dernière question pour Arthur avant de le remercier.
Mais oui, parce qu'il arrive là-bas, il connaît pas les courses. Et comme il dit, il va voir le calendrier, il va voir comment ça se passe. Ils ont pas encore sûrement trop parlé de ça. Mais bon, on a déjà parlé un peu au téléphone. Et je lui dis, de toute façon, la première année, il va falloir prouver que t'es là. Sinon, ça peut aller très vite aussi de repartir. Et est-ce que, quand même, t'as une idée d'un objectif que tu t'es coché cette année, quand même? Parce que même si on est là pour apprendre, on est quand même aussi là pour essayer de faire quelque chose.
Ah, ça c'est sûr, moi en plus tu me connais, plus particulièrement Max, tu sais que j'adore gagner et que la compétition, j'adore ça. Et donc cette année, même si je le sais très bien, je vais devoir faire pas mal sûrement de boulot pour les autres coureurs, notamment le champion de France amateur qui est dans les rangs de notre équipe avec Clément Marie. Et moi j'aimerais bien essayer de sur une course élite de début de saison en Bretagne, être le plus en forme possible pour essayer d'aller chercher un podium. Mais c'est sûr, je vois peut-être un peu grand, mais je pense qu'il faut avoir les yeux qui brillent et savoir rêver pour pouvoir aller chercher un bon résultat. Donc voilà, et puis après c'est un autre objectif. Si l'équipe fait encore cette course cette année, je sais que l'an dernier ils avaient fait Paris-Roubaix Espoir et c'est une course qui me fait un peu rêver avec les passages en pavé et tous les petits secteurs venant du VTT et adorant le cyclocross. C'est une course que je souhaite faire et aller le plus loin possible sur ces parcours.
Bon, mais c'est tout ce qu'on va te souhaiter, Arthur, et puis on viendra prendre de tes nouvelles dans la saison avec Radio Vélo.
Mais c'est gentil, et donc moi je souhaite aussi vous remercier donc, de m'avoir fait cette petite interview. Je souhaite encore remercier mon club qui m'a super bien formé avec Muret Cycliste et j'espère que j'irai montrer les couleurs le plus loin possible, comme j'ai pu un peu déjà le faire avec le VTT, notamment avec le stage en équipe de France. Donc voilà, j'espère continuer dans cette progression et savoir voir grand et rêver un peu.
Mais en tout cas, tu en as le droit et puis il faut en prendre le droit et c'est
fonce.
Ce qu'on te souhaite, fonce, c'est entraîne-toi bien pour être prêt pour les courses bretonnes alors.
Et rendez-vous aux plages.
Ouais, c'est ce que je fais, il n'y a pas de problème pour ça.
Bonne soirée Arthur Troy, à bientôt.
Ciao.
Bonne soirée à vous et à bientôt.
À bientôt dans Radio Vélo, merci. C'était Arthur Troy. Il n'a que 19 ans. C'est plutôt solide hein, de ce côté-là, je trouve. On lui souhaite vraiment bon vent. Messieurs, on continue un petit peu la minute pyrénéenne, le temps que j'appelle notre troisième invité.
Juste une mauvaise nouvelle qui est tombée aujourd'hui. La préfecture de Haute-Garonne a décidé, suite aux événements de vendredi, d'annuler le cyclocross de Colomiers de dimanche. Donc voilà.
Toute manifestation sportive est annulée ou c'est uniquement sur, on ne sait pas.
C'est un peu au choix, j'ai l'impression.
Non, ça dépend vraiment de l'organisation.
C'est-à-dire dernière minute pendant l'émission.
C'est tombé ce matin.
Annuler, ça va faire ça très vite, mais moi je serais aussi de rester trouver une date très vite pour le remettre en route. Pourquoi pas en fin de saison rajouter un cyclocross.
Sachant que du cyclocross, ça s'organise un petit peu à l'avance. Les parcours, il faut les préparer, les nettoyer, il faut couper l'herbe, il y a beaucoup de choses. Ils avaient prévu de faire une course le matin et l'après-midi. Bon, d'accord, il s'est passé ce qui s'est passé, mais enfin.
Enfin, de là à ce que les mecs qui viennent au cyclocross de Colomiers, il faut arrêter là.
Après, c'est la psychose. Ça se respecte, mais bon,
la préfecture, c'est sûr. Moi, j'ai respect la préfecture.
Écoutez, radio vélo, faites un compte Twitter et on met un petit tweet à la préfecture pour dire de le remettre en route, quoi.
Ouais. Non, mais c'est un peu dommage parce qu'un club qui s'investit pour organiser une course, déjà qu'on n'a pas trop de courses, même si le calendrier est pas mal fourni, voilà, c'est un peu dommage.
Donc, ouais, ce week-end, il n'y a pas de cyclocross dans la région. Voilà.
Donc, nous partirons dans les Landes. Donc, ouais, pour revenir un petit peu à Kelneuc, puisque j'étais ce week-end à Kelneuc, accompagné, on avait fait nous une petite délégation. Ça s'est bien passé au niveau de l'organisation. C'était, voilà, c'est un petit village qui a à peu près 500 habitants quand même. Donc il y avait 625 coureurs, donc à savoir qu'il y avait plus de coureurs que d'habitants. Et la Bretagne a quand même cette faculté-là de concentrer un petit peu à l'image de la Narvilly, des petits villages qui sont vraiment atypiques, où il y a juste un bar, une église, hein, et d'aller faire des circuits qui sont comme ça, des superbes circuits, très techniques. Et d'amener du monde, voilà, sur des courses comme ça, c'est un petit peu ce qui s'est fait un petit peu sur la route aussi. Toi qui as pu courir Max sur les courses en Bretagne, c'est un petit peu le même esprit que quand tu vas courir sur des courses sur route, où tu vas dans un village où c'est tout petit et il y a une foule qui est impressionnante, quoi.
Ah, tout à fait, oui. Bah, t'arrives, il y a une église et une mairie, puis finalement, tu sais plus te garer parce que tout est blindé. Même les gens s'en garer avant que les équipes arrivent. Mais sinon, il me semble avoir vu une info, je crois que c'est là-bas qu'il y a un coureur qui a fait 7e et qui était parti en dernière ligne, une chose comme ça, non? J'ai vu un tweet ou un truc passer. Je sais pas en quelle catégorie, mais il y en a un qui fait 7. Non, vous l'avez pas vu, non?
J'ai plus le nom, mais
s'il y en a qui nous écoutent et qui savent qui c'est, mais je sais pas si c'est là-bas, mais il paraît d'un gars qui a fait 7e à l'arrivée et qui était parti dans la dernière ligne.
Donc, je n'en fais pas, mais
je sais quand même que quand on part en fond de ligne et qu'on va faire 7 à l'arrivée, c'est costaud.
Chez les jeunes, c'est plus compliqué quand même, parce que chez les jeunes, quand tu es cadet, comme je te dis, tu as que 30 minutes de course. Faut vraiment envoyer du gros pour vite remonter 7e. Statistiquement, c'est très compliqué. Je pense que oui, chez les espoirs où c'est 50 minutes, tu peux. Moi, je sais que l'année où j'ai fait 3 au championnat de France, il y a une grosse chute dès le départ. Je suis tombé et voilà, j'ai réussi à remonter parce que 50 minutes de course, t'attends de te refaire. Voilà, sur le mur, c'est un petit peu compliqué.
Allez, messieurs, notre troisième invité de la soirée, c'est Félix Pouilly qui est avec nous. Félix, est-ce que tu nous entends?
Oui, bonsoir.
Bienvenue en direct dans Radio Vélo avec cette bonne nouvelle qui nous est arrivée il y a quelques jours maintenant, où on te retrouvera donc professionnel du côté de Roubaix-Lille Métropole. Tout d'abord, félicitations Félix, et puis peut-être une question, Benjamin.
Oui, bonjour Félix. La question, c'est savoir ce que tu attends de cette première année professionnelle, sachant tes capacités de flandrien, puisque, je le rappelle, tu as fait 4e de Paris-Roubaix Espoir cette année.
Ma première année, je ne sais pas trop, ça va être déjà une découverte. Après, Roubaix, c'est une équipe continentale, donc c'est une équipe qui doit servir de tremplin pour aller au-dessus, quoi. Donc, même si ça va être une année d'apprentissage, j'attends déjà, pourquoi pas, des résultats, quoi, et essayer de me montrer pour justement attirer l'attention de plus grosses équipes, d'équipes comme Cofidis ou des équipes comme ça, quoi, parce que, comme nous le répètent les dirigeants de Roubaix, c'est une équipe qui doit servir tremplin pour aller au-dessus, c'est pas une équipe dans laquelle il faut rester plus de 2-3 ans, quoi, donc, apprentissage rapide, on va dire.
Justement, Félix, comment s'est fait le contact avec Roubaix? Je crois que tu as été stagiaire dans cette équipe, c'est ça?
Ouais, en fait, je les connais très bien parce que je suis de la région, quoi. J'habite à une vingtaine de kilomètres de Roubaix, donc je savais que depuis les juniors, les dirigeants avaient quand même un œil sur moi, quoi, et cette année, avec l'enchaînement de quelques bons résultats, printemps au Monte-Paris-Roubaix Espoir, voilà, j'ai eu mon premier contact sur les stagiaires et après j'ai vite su que ça allait être bon pour un contrat.
Julien.
Oui, bonsoir Félix, ben, félicitations. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. L'équipe t'a annoncé qu'en fait, il souhaitait que ça soit une étape intermédiaire pour toi d'intégrer cette équipe pour que tu passes au-dessus, c'est bien ça?
Ouais, complètement. Ouais, c'est leur but, c'est pas de, surtout avec un jeune coureur comme moi, leur but c'est pas de garder leur coureur si on a une opportunité dans une équipe au-dessus, donc de deuxième division ou même World Tour, quoi. Enfin, eux, c'est premier content, quoi.
D'accord, ouais, ça c'est surprenant parce que c'est pas habituellement ce qu'on entend d'une équipe pro, quoi. Ils se considèrent comme ça, comme tremplin pour après passer au-dessus, quoi.
Ouais, après c'est une équipe continentale. Enfin, la plupart des équipes continentales ont cette vocation là. Enfin, il y a toujours des coureurs cadres un peu plus âgés qui font tourner l'équipe au niveau résultat. Mais après, c'est vrai que pour les jeunes, leur but, c'est valorisant aussi pour eux d'avoir un coureur. Enfin, je pense par exemple à Quentin Jauregui qui a fait un an chez eux par exemple. À 20 ans, et puis il est allé chez AG2R ensuite. Voilà, ils sont contents, quoi. C'est leur rôle.
Justement, Félix, nous on est plutôt du côté de Midi-Pyrénées, et c'est vrai que cette équipe Roubaix-Lille Métropole, on la voit évoluer d'assez loin. Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous présenter comment fonctionne la structure? C'est vrai que il y a toute la région du Nord, et puis le Lille Métropole également, et la métropole qui est derrière cette équipe, c'est ça?
Ouais, c'est une équipe qui est en grande partie sponsorisée par des fonds publics, quoi, que ce soit la ville ou la métropole lilloise, la région. Il n'y a pas de gros partenaires privés, quoi, comme on peut voir avec la plupart des autres équipes. Et c'est une équipe cette année, on est moitié français, moitié belge en fait, l'effectif. Donc voilà, c'est une équipe à forte consonance nordiste, voire flamande, quoi, cette culture-là.
Et justement, je profite d'avoir ton œil d'expert pour avoir une question qui est un petit peu plus décalée, mais toujours sur l'équipe. Quel est le rôle de Cyril Guimard? Est-ce qu'il a toujours une place prépondérante dans cette équipe Roubaix-Lille Métropole?
Bah, moi, je l'ai pas encore vu, mais je sais que ouais, il a son mot à dire sur le recrutement. Je sais qu'il a eu son mot à dire sur mon cas. Moi, je l'ai pas encore vu, mais on va le rencontrer en stage, je pense. Et puis, il est pas directeur sportif. Enfin, il est, je pense, dans l'année, il doit faire deux, trois courses peut-être. Il est plus dans un rôle de
conseiller.
Ouais, tu vois, c'est exactement. Et son avis sur les coureurs, sur le recrutement beaucoup. Et puis.
D'accord.
Voilà.
Benjamin.
Oui, tout à l'heure, tu parlais que c'était une année d'apprentissage, mais pas que. Et justement, c'était pour savoir si déjà tu avais quelques courses en vue, et si oui, lesquelles?
Ouais, bah, c'est difficile à dire parce que je vais découvrir toutes les courses en gros auxquelles je vais participer. Puis, puisqu'à part les quelques courses que j'ai fait en stagiaire, ça va être ma première saison pro, donc c'est difficile de déjà savoir les courses qui vont vraiment me correspondre et tout. Mais bon, je sais que la plupart de l'année, je serai plutôt équipier pour nos deux sprinters, l'équipe Rudy Barbier et Louis Verest. Et bon, parce que chez les pros, comme tout le monde le sait, 90% des courses se terminent au sprint, quoi. Mais après, moi, mon registre, c'est plus les courses de puncher, style les courses de Coupe de France. Je pense que ça devrait pas mal me convenir. Après, voilà, c'est chez les pros, c'est un autre niveau, donc il faudra voir.
On va suivre ça de très près du côté de Radio Vélo. Merci d'avoir pris quelques minutes, Félix, pour passer nous donner de tes nouvelles.
Ouais, merci.
Merci et à bientôt. Je crois il y a un stage bientôt en plus, hein, c'est ça?
Non, c'était là, on était regroupés 3 jours.
Déjà
là,
un regroupement.
Ouais, stage de cohésion.
Bon, en tout cas, on te souhaite une bonne continuation et à bientôt dans Radio Vélo, Félix.
Merci, au revoir.
Au revoir. Au revoir. C'était Félix Pouilly d'un Radio Vélo. Et oui, Roubaix-Lille Métropole, c'est une équipe pas la plus médiatique hein, du circuit continental français. Hein, je ne mâche pas mes mots.
Non, mais c'est tout ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est une équipe qui a une identité, comme il dit, nordiste. C'est vrai qu'on ne les voit pas forcément dans le sud de la France, mais plus sur les courses continentales, qu'elles soient du nord de la France, mais également en Belgique.
C'est ta radio qui pourrait être partenaire de cette équipe Roubaix-Lille Métropole. Hein, il va falloir qu'ils appellent Martine. Du côté de l'émission, on revient à la chronique Matos, bien sûr. L'argent n'est jamais très loin quand on a Guillaume dans le studio. Hein. Matos Vélo, Cycloblog, c'est la rubrique de Guillaume. Pas forcément de grosses nouvelles. Hein. Ces dernières semaines, tu avais quand même du lourd, pas mal d'infos, des dernières petites infos, notamment du côté du matériel des équipes. Mais cette semaine, un peu moins, c'est
non, ça? C'est calme. En ce moment, c'est calme. C'est la période de la trêve, un peu.
D'accord.
Une news qui va peut-être intéresser les plus passionnés, la marque Rafa que certains connaissent,
qui coûte très cher, moi je connais juste pour ça,
qui est très joli, qui a ouvert un magasin éphémère du 7 au 23 novembre à Paris. C'est deux rues françaises dans le premier arrondissement, donc si vous aimez la marque vous pouvez en profiter jusqu'au 23 novembre, donc c'est ouvert tous les jours, même le dimanche.
C'est intéressant quand
même. Donc voilà, c'est un concept assez atypique, je trouve, mais bon, voilà. Jusqu'au 23 novembre, vous pouvez y aller pour donner des idées cadeaux, peut-être.
Des beaux cadeaux, ouais.
J'ai vu passer un fameux capteur de puissance qui vient mesurer la vitesse du vent et en fonction de cela, déterminer la puissance.
Oui, c'est Météo France qui l'a commercialisé.
Comment il s'appelle? Le iPod, je crois, ou quelque chose comme ça.
Cadec, non, c'est pas.
Je sais plus. On m'en parle beaucoup. Beaucoup de gens me demandent mon avis, donc moi, j'ai jamais testé, donc je peux pas.
L'appel est lancé, donc l'adresse de Guillaume, je vous la donne.
Mais il y a un petit système qui se positionne sous la potence, on va dire.
Il y a une sonde pitot, j'ai vu.
Qui fonctionne effectivement comme un avion, comme une sonde pitot pour mesurer la vitesse du vent. Et donc,
il y a l'accéléromètre.
Voilà, et pouvoir donner l'information de la puissance. Moi, j'y crois pas des masses. Parce que en cas de vent de dos, je sais pas comment la sonde pitot mesure dans ce cas-là. Voilà, beaucoup de monde m'en parle, parce qu'apparemment, c'est dans les 400 ou 500 euros, donc c'est assez peu cher. Bon, pour l'instant, j'ai vu aucun test passer, donc...
Ils peuvent t'envoyer le matériel, à la rigueur.
Pourquoi pas.
Bon. Vous le trouvez sur Twitter. Guillaume, c'est tout?
Non, AG2R, que j'ai vu, ils ont présenté leur nouveau maillot aujourd'hui.
Oui, on le reconnaît, hein, que c'est AG2R.
Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas trop changé. C'est
peut-être pas plus mal.
Voilà, il y a juste la manche gauche qui a changé, qui était avant. Bah, les deux manches étaient marron, la manche gauche passe en bleu. Et après, il change de fournisseur. C'était Descente avant, il passe chez One Way. Donc, après le cuissard, on n'en sait pas plus. Est-ce qu'il sera dépareillé ou pas voilà.
Je voulais juste te poser une question, Guillaume. Est-ce que tu avais eu toutes les infos concernant le matériel des équipes ou tu avais encore des trucs en suspens? Parce que la semaine dernière, tu avais annoncé du coup Big Mat. Est-ce que tu as réussi à avoir tout
non, ou il y a encore non, quelques... Il y a toujours quelques équipes qui sont... On est toujours en attente. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont attendre le 1er janvier. D'accord. Parce que la plupart des contrats de partenariat, jusqu'au 31 janvier. Décembre. Donc, on en saura plus. Il y a des rumeurs, mais on peut pas en dire plus.
Ok,
donc,
très bien.
Voilà, c'est tout pour le moment.
C'est tout pour cette semaine, messieurs. Qui voulait rajouter quelque chose?
Pour la cinquième ligne, oui. Pour la cinquième place. Donc, les auditeurs qui nous écoutent, c'est Florian Richeux de Bretagne qui part en dixième ligne ou deuxième ligne et qui prend la cinquième place.
Voilà. Donc, ça suit un côté des Twitter.
Je remercie Tintin qui est
réactif,
assidu.
Je sais pas si on a le
temps.
C'est
là que ça se passe. Hein, ouais.
J'ai une petite question technique pour une fois à Guillaume, s'il peut faire une réponse courte. Mais je me pose la question, ou alors on fera un débat plus tard.
Guillaume, c'est comme les ministres.
C'est nous dire ce que tu penses entre la pédale look et l'autre pédale, la Speedplay. Pour toi, qu'est-ce que tu penses?
Est-ce que
tu as testé?
J'ai jamais testé la Speedplay. Après, tous ceux qui sont passés chez Speedplay en sont ravis.
Voilà.
Après, moi, j'ai rien à reprocher.
Peut-être un futur test à faire.
Ouais, j'essaye, mais ils ont
un tableau comparatif entre les deux pédales.
Ils sont pas très prêteurs. Donc,
j'avoue, je me pose la question. En fait.
Alors après, beaucoup disent la pédale Speedplay est plus légère, ce qui est vrai. Sauf que si tu rajoutes cale plus pédale, c'est équivalent à look. Alors après, il y en a beaucoup qui apprécient la liberté angulaire de la Speedplay et le fait qu'on puisse l'enclencher des deux côtés. C'est vrai que c'est un avantage peut-être, si j'aimerais bien pouvoir tester un jour pour pouvoir vraiment donner mon avis. Mais tous ceux qui sont passés chez Speedplay en sont contents, donc je vais essayer de trouver ça.
Mais décidément, il a fait sa liste au Père Noël, Guillaume, ce soir. Il y a des tests à faire. On referme l'émission. Messieurs, vous voulez rajouter quelque chose, Julien, non? Pas de gros voyage dans les deux prochaines semaines?
Écoute, pour l'instant, non. L'Allemagne, la deuxième manche vient de passer. La troisième sera à Flamanville le 30 décembre, la veille. Donc voilà, donc moi je vais monter le petit Clément, sûrement avec d'autres coureurs. Bon. C'est parti de l'évolution et de la préparation pour les années futures, voilà.
Max, c'est bon, on a été complet aussi.
Ouais, ce soir je suis chaud et j'ai envie de donner un coup de gueule en fait, mais je vais pas le donner.
D'accord.
Voilà, j'étais chaud, je voulais le faire, mais bon, la personne se reconnaîtra si elle nous écoute parce qu'on a déjà écouté par le passé.
Pour la bienséance de l'émission.
De toute façon, j'aurai affaire à lui prochainement, donc je pense qu'il nous écoute ce soir.
Voilà.
Mais je préfère donner plutôt une info.
C'est sur le vélo qu'on fait ce soir.
Je peux te balancer une info de l'équipe Team Paynem, que j'ai encore balancé à personne.
D'accord.
Donc il y en a beaucoup qui se doutent.
Oui.
Mais je me dis pourquoi pas l'annoncer maintenant, parce qu'en quelques jours, on va l'annoncer officiellement.
Oui, en plus, demain, il y a sorti Beaujolais, vas-y.
L'équipe Paynem roulera sur des vélos de Trek pour 2016.
Trek, donc c'est.
Voilà, moi je le savais. Voilà, ça savait un peu partout, mais attends.
Mais c'est officiel.
C'est quand même...
Voilà, là c'est officiel, on peut le dire, avec un beau petit vélo Trek qu'on mettra à photo bientôt.
Voilà, avant c'était associé à Alain Samsung, maintenant c'était à Paynem.
Et voilà.
Non, mais c'est super, des super machines.
Sinon j'ai un coup de gueule, mais non.
Non, c'est bon, comme ça. On fera l'émission de Noël le 16 décembre.
On n'est pas là, c'est prochaine.
Non, c'est RTT Radio,
t'es
temps de travailler.
Toi, voilà. Jamais là, en fait.
Non, bah écoute, un peu.
Ça, c'est jamais là.
On va une petite pause avant d'attaquer l'hiver.
On attaquera décembre à fond la caisse. Juste une semaine. Sans podcast, désolé, mais vous avez les réseaux sociaux, bien évidemment, pour nous interpeller. On se retrouvera les 2, les 9, les 16 décembre avant la coupure hivernale à Vol, Papa Noël. Les idées de cadeaux de Guillaume et de Philippe. Max ?
Non, sinon j'ai un coup de gueule.
Non, non, ça ira. Écoute, on coupe les micros. On coupe les micros
et non, mais j'ai envie de le dire.
On va savoir après. Le podcast de la fin de soirée. Ciao, bonne semaine.
Ciao, ciao.
Au revoir. Retourne là.